l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Pamiers, 100.2.
Plaisir de vous retrouver pas dépassé d'une minute. C'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver entre 12-13 pour ce Présence Midi, avec au sommaire de ce magazine dans quelques instants. Voilà, nous sommes le mercredi 1er octobre et le mois d'octobre, c'est Octobre Rose. Je pense que toutes les manifestations qui vont se dérouler autour de chez vous, c'est le grand mois de promotion du dépistage du cancer du sein. Nous serons avec la présidente du comité départemental de la Ligue contre le cancer pour le département des Hautes-Pyrénées, Madame Annette Cuc, qui viendra nous dire toute l'importance, bien sûr, du dépistage, mais également de toutes ces opérations qui permettent aussi de récolter de l'argent. Une partie, bien sûr, part à la recherche, mais aussi une autre partie part dans les aides. Les comités départementaux, il y en a un dans tous les départements, bien sûr, viennent aider les personnes malades ainsi que les aidants. On leur propose des soins de support, mais également des aides financières, vous l'entendrez dans quelques instants, dans la bouche de la présidente, Madame Annette Cuc. Et puis, on partira dans le Gers, comme nous le faisons chaque mercredi. Nous serons à Pavie pour le jumelage entre Pavie et Villanueva de Gallego. Ils ont fêté leurs 25 ans de jumelage. On en parle avec le maire et le président du comité. Et puis, un jour, on livre un auteur. Aujourd'hui, c'est Diego Arrabal qui nous présente une sélection de livres qui l'a intéressé. Et on parlera d'ailleurs de pas mal de sujets avec lui. Mais pour l'heure, je vous propose...
Au sujet de la demande de suspension du chantier de la future ligne à grande vitesse entre Toulouse et Bordeaux, par ordonnance du 30 septembre, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête en référé suspension déposée le 25 juillet par l'association des Amis de la Terre Midi-Pyrénées contre l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale des aménagements ferroviaires au nord de Toulouse. Les travaux se poursuivent avec maintien de l'échéance de mise en service en 2032, informe la préfecture. Le mémorial des combattants d'Afrique du Nord de Toulouse vandalisé. Ce monument est situé au parc Félix Lavitte dans le quartier de Jolimont. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, a réagi sur les réseaux sociaux. Je le cite, ce geste est une insulte à notre mémoire collective et au sacrifice de ceux qui ont servi la France. Une plainte sera déposée. Fin de citation. Suite à une coupure accidentelle de câbles téléphoniques dans le Gers, des perturbations ont été constatées hier sur les lignes téléphoniques fixes de la totalité des administrations du département. Plusieurs établissements hospitaliers ont été également impactés. Les équipes de l'opérateur SFR étaient mobilisées et le rétablissement à la normale était prévu hier en fin de journée. Ce jeudi, nouvelle journée de mobilisation en France. Des perturbations sont attendues dans les transports, à l'éducation nationale, dans la santé, à la poste. Des manifestations sont prévues dans plusieurs villes d'Occitanie.
Merci beaucoup à vous, Éric Leclerc, bien sûr, pour nous présenter les titres. Le retour de l'actualité, ce sera 12h30 avec le journal complet. Nous allons parler d'un événement qui va se dérouler dans tous nos départements. C'est Octobre Rose, c'est le mois de sensibilisation et de promotion du dépistage du cancer du sein. Nous sommes avec la présidente du comité départemental de la Ligue contre le cancer, Madame Annette Cuc.
Présence à Pamiers. 100.2.
Le mois d'octobre, on peut dire que c'est le mois en rose. Et pour nous parler d'un mois un peu particulier, j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir Annette Cuc, la présidente du comité départemental de la Ligue contre le cancer pour le département des Hautes-Pyrénées. Bonjour Annette.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation. On se voit régulièrement parce que des opérations avec le cancer, malheureusement, il y en a régulièrement. On s'était vu la dernière fois au mois de mars pour parler de Mars Bleu.
Mars Bleu, tout à fait.
Ce mois de septembre, puisque on est toujours au mois de septembre, c'est les cancers pédiatriques, je crois.
Oui, voilà. Donc le mois de septembre, il faut pas oublier. Bon, ça a moins d'aura que le mois d'octobre, où il y a beaucoup de manifestations organisées. Donc c'est septembre à nord, c'est-à-dire on s'occupe des cancers des enfants, des pédiatriques et des jeunes adultes. Voilà. Et puis il y a aussi les cancers hémato, hein, les cancers du sang qu'il ne faut pas oublier non plus, puisque quand même ils font partie des cancers les plus mortels,
hein, c'est-à-dire. Ouais. C'est un mot qui fait peur, et bien sûr, cancer. Et octobre rose, ça devient, au niveau départemental, mais au niveau national, quelque chose d'incroyable. Il y a un élan là, pour octobre rose. C'est quoi octobre rose en deux mots?
Alors, octobre rose, c'est la promotion du dépistage du cancer du sein. Voilà, c'est là qu'on fait la promotion de faire le dépistage organisé et gratuit, organisé par la Sécurité sociale et par la CPAM. Et voilà, et c'est gratuit pour toutes les Françaises de 50 à 74 ans. Voilà, pour aller faire une mammographie de contrôle, pour aller voir s'il n'y a pas un petit cancer qui pourrait être un prémisse d'un cancer beaucoup plus grave. Et on pourra soigner 9 cancers sur 10 si on arrive à les détecter très tôt.
Alors la Ligue contre le cancer au mois d'octobre est très sollicitée. Juste un rappel, vous n'êtes organisateur de rien, vous êtes partenaire par contre.
Voilà, oui, nous sommes partenaires, on est très sollicités. Il y a beaucoup de manifestations organisées par les territoires, les petites et moyennes et grandes villes, comme la Tarbelle bien sûr, là, qui est la plus grosse, mais aussi, donc il y en a de plus en plus tous les ans, hein, qui se rajoutent, mais aussi toutes les actions qu'on fait en semaine, j'allais dire, parce que toutes les manifestations des territoires, elles se font le week-end, et en semaine, donc, dans toutes les actions organisées par la CPAM, qui maintenant va dans toutes les villes, toutes les principales villes du département, et donc on est partenaire avec eux, ils nous sollicitent pour les aider à porter la bonne parole, à faire des ateliers palpation pour les femmes, et notamment dans les quartiers prioritaires. Et ça, donc, c'est quelque chose c'est une mission qu'on aime bien porter.
Alors, bien sûr, on va peut-être rappeler, puisque d'année en année, Octobre Rose augmente dans les manifestations, dans le nombre aussi de participants, mais des fois, on oublie un peu le pourquoi d'Octobre Rose, ça devient quelquefois juste une petite balade entre copines, et il faut quand même rappeler qu'on fait ici la promotion du dépistage.
Hein. Oui, ce que je viens de dire, donc oui. C'est le dépistage du cancer. Bon, c'est vrai que lors des manifestations, effectivement, c'est un moment convivial de rapprochement, mais bon, voilà, on essaie quand même de rappeler pourquoi on est là. Et d'ailleurs, on a toujours un stand avec un buste pour éventuellement montrer comment on peut se surveiller, hein, les seins pour les femmes jeunes et les femmes moins jeunes aussi.
Voilà. Le dépistage organisé commence à 50 ans, hein ?
50 ans, oui. De oui. 50 à 74 ans. Voilà les 2 ans.
Tous les 2 ans, on est invité à aller faire une mammographie pour voir si tout se passe bien.
Voilà. On reçoit une lettre envoyée maintenant par la CPAM. Et donc, il faut aller prendre rendez-vous chez un radiologue. Alors, bon, maintenant, ça s'est un peu amélioré sur notre département, notamment dans notre ville de Lourdes. Mais bon, c'était un peu difficile d'obtenir des rendez-vous. Donc, on les avait plutôt à 2-3 mois. Bon, maintenant, ça s'est un peu régularisé. Et donc ça redevient un peu plus normal et on arrive à faire ce fameux contrôle tous les 2 ans.
Donc on invite bien sûr encore toutes les femmes qui vont participer à Octobre Rose, qui seront bien sûr, qui recevront hein, ce courrier, puisque c'est organisé, vous l'avez dit, par la Sécurité sociale, et qui recevront d'aller, de prendre son téléphone, de prendre un rendez-vous. Et bien sûr ça fait toujours peur, mais il vaut mieux pas faire l'autruche. Hein.
Oui, tout à fait. Oui, comme j'ai dit au départ, c'est en fait le but c'est d'éventuellement découvrir des cancers petits, hein, pour lesquels il y aura peut-être aucun traitement, juste peut-être l'exérèse, c'est-à-dire enlever juste la tumeur, et pas de chimiothérapie, pas de radiothérapie derrière. Donc ça, c'est vraiment quand même le gros avantage qu'on peut avoir est de découvrir ces cancers très tôt et qu'on soigne, quoi, qu'on guérit.
Qu'on guérit. Oui, parce qu'il y a de l'espoir quand même derrière, voilà, bien sûr.
Tout à fait.
Octobre Rose, beaucoup de manifestations à Netecuc. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour votre comité départemental? Octobre Rose, je crois que c'est presque la plus grande source de revenus pour l'année.
Voilà, c'est pas la plus grande source, mais
c'est pas loin.
Elle approche. Voilà, en fait, c'est un tiers de notre, à peu près un tiers de notre budget annuel. Voilà, donc c'est plus que les dons annuels. Donc, vous voyez, avec un mois d'activité, hein, de manifestation, donc on reçoit des gros chèques venant des villes, notamment le gros chèque de Tarbes.
Avec la Tarbelle. Qui est, je crois, la plus grosse manifestation. Dans la région Occitanie.
Ouais, tout à
donc,
fait.
Bravo.
Ils arrivent à réunir plus de 6000 personnes et ils attendent 7000 cette année.
Voilà, ils aimeraient bien être.
Et ils préparent les 10 ans pour l'année prochaine.
Pour l'année prochaine. Voilà, la Tarbelle qui donc se déroulera, je crois, dans une quinzaine de jours, hein, le vendredi.
C'est le vendredi 10.
Vendredi 10, donc.
Vendredi 10 au soir.
Au stade Maurice Trélu à Tarbes. Essayons de battre le record des 7000 participants pour cette
pour
édition.
Pour atteindre les 10000 pour les 10 ans.
Alors, bien sûr, lorsqu'on participe à une manifestation, quelle qu'elle soit, hein, et puis on ne démérite pas, bien sûr, on parle de la Tarbelle, mais toutes les manifestations dans les petits villages, tout le monde, effectivement, met la patte, donne des chèques, il n'y a pas de petits chèques. Hein. Mmh. Alors, on pense toujours que peut-être l'argent part, et c'est très bien, à la recherche à Paris, pour essayer de trouver des nouveaux traitements, des nouveaux médicaments, peut-être. Mais il en reste ici, dans le département. À quoi il sert cet argent dans le département, Nette?
Alors, en fait, il sert surtout aux aides aux malades. Donc, on fait des aides financières, mais aussi des aides sous forme de soins de support qu'on a mis en place, organisés, qu'on a déployés sur des espaces ligues dans le département. Alors, il y a un espace ligue à Vic-Bigorre-Maubourguet, un à Bagnères, un à Lourdes, qui va se déplacer sur Argelès-Gazost le mois prochain. Et nous allons ouvrir aussi Saint-Laurent-de-Nest pour couvrir le secteur de l'Anneusan, de la Nest.
Dans cette espace ligue, l'idée c'est quoi? C'est de donner de l'information et des soins de support.
Voilà, il y aura des permanences où on donne des informations aux patients et on leur propose, selon leurs besoins, des soins de support. Alors c'est du soutien psychologique, des conseils diététiques, de l'activité physique adaptée, de la socio-esthétique. Et on y rajoutait, alors ça c'est les soins proposé par l'INCa, qui est l'Institut du Cancer, et on y rajoute la sophrologie, hein, qui est assez demandée, et qui est une technique de relaxation qui est favorable pour les patients qui sont en cours de traitement.
Voilà. On ne traite pas le cancer, mais on traite l'anxiété qui peut provoquer, et quand on est mieux, effectivement, on appréhende mieux la maladie.
Tout à fait. Hein. Ouais. Oui, même l'activité physique, on pourrait penser que ce n'est pas réservé aux malades, mais au contraire, il faut en faire avant pour se prévenir d'un cancer.
Pourquoi vous regardez un sourire?
Parce qu'on lutte en fait finalement à la fatigue due au traitement, et après pour éviter les récidives.
Oui.
Donc c'est très important de faire aussi de l'activité physique.
Et ça, bien sûr, vous financez, c'est-à-dire que le malade, lui, c'est vous qui payez les séances. Hein.
Oui.
Donc c'est gratuit pour lui. Mais par contre, c'est pas gratuit. Vous payez les prestataires. Et donc cet argent qui vous est donné par les dons, qui vous est donné par Octobre Rose ou toutes les manifestations que vous faites, ou même des legs pour certains, eh bien cet argent, il y a une partie donc qui part bien à la recherche, mais il y a une partie donc qui vient aider. La double peine, c'est les soins, c'est les aides financières que vous donnez aussi malheureusement, il y a la double peine de la maladie et aussi, malheureusement,
tout
financière.
Oui, oui. Il y en a beaucoup qui se retrouvent sans revenus parce que leur activité s'arrête. Et donc, on essaie de les aider. Alors, on les aide sous forme de paiement d'une facture d'EDF, de chauffage, des frais d'obsèques dans certains cas. Voilà, on fait ces aides ponctuelles grâce à notre commission sociale, où il y a un médecin, un trésorier et une assistante sociale qui étudient les dossiers qui ont été préparés par les assistantes sociales des malades.
Des malades.
Voilà. Et les soins de support, nous payons les prestataires, effectivement. Et les soins de support s'adressent à la fois aux malades, mais aussi aux aidants, qui ont besoin aussi, eux, qu'on les aide.
On en a parlé récemment des
aidants, donc c'est très important qu'on puisse être là aussi pour eux, parce qu'ils supportent aussi la maladie avec leur famille.
Les bénévoles, bien sûr, et tout le comité départemental va être mobilisé pour ce mois d'octobre. Il y a des manifestations un peu partout dans le département. Il est difficile même de trouver une commune qui ne fait rien. Oui. Vous avez une liste devant vous qui n'est pas complète, puisqu'il s'en rajoute encore régulièrement. Mais je crois que le premier week-end est chargé. Hein.
Le premier week-end est très chargé. On va avoir un petit peu de mal, mais bon, on déploie tous les bénévoles. Et donc, on a à peu près, je crois, 14 manifestations sur le premier week-end. En tout, on en aura entre 45 et 50 jusqu'à la fin du mois. Alors, bien sûr, les 15 derniers jours, il y a les vacances scolaires, donc ça, c'est plus léger. Hein, plus, oui. Voilà. Mais tout s'est un peu concentré cette année sur les deux premiers. Donc le 4 et 5 et le 10 et 11, ou le 11 et 12. Ouais.
Les deux premiers week-ends sont très chargés.
Les week-ends sont très chargés.
Très chargés. Mmh. Bien sûr, tout le monde, voilà. Donc, et puis on donne rendez-vous pour tous les gens du département, bien sûr, à la manifestation phare, hein, même si toutes, bien sûr, elles valent qu'on s'y intéresse, mais il y a la Tarbelle, donc, qui aura lieu donc, le vendredi. Mmh.
Oui. Et on peut regarder notre site pour avoir toutes les informations de ces manifestations qui vont se faire peut-être près de chez vous.
Près de chez vous et qui sont partagées sur réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux.
Octobre rose, donc le grand mois du dépistage donc du cancer du sein. Venez, profitez, parce que il est vrai que quand on parle du cancer, il vaut mieux organiser quelque chose d'un petit peu de festif qui permet de faire passer des messages, parce que voilà, ça fait peur quand même, ce mot cancer.
Ah oui, bien sûr.
Il fait peur à tout le monde.
Il est très meurtrier, ça fait partie de la première, première maladie maintenant responsable de décès. Alors, on les soigne beaucoup mieux, hein, parce que le cancer du sein, par exemple, c'est 88% de guérison. Donc, ça fait quand même partie des cancers qui se soignent bien.
Qui se soignent bien.
À condition qu'on le détecte tôt.
J'aime bien dire qu'un cancer, c'est comme un incendie. Hein. Si on le prend rapidement avec un petit extincteur, on peut l'arrêter. Malheureusement, s'il prend plus ampleur, les pompiers arrivent, mais des fois, c'est trop tard, la maison brûle, quoi.
Voilà. Bon, après, il y a des cancers qui sont difficiles à détecter. Ouais. Et qu'on a des signes que quand c'est déjà très grave.
Ouais.
Voilà, qu'il y a déjà des métastases installées. Donc, l'avantage de ce cancer du sein, justement, ou le cancer colorectal, hein, au mois de mars, où on peut faire aussi un test qui permet de détecter éventuellement des polypes qui saignent, qui sont des pré-cancers. Donc, c'est un gros intérêt de les dépister le plus tôt possible. Puisqu'en face à ça, il y a des cancers comme le poumon, le pancréas, qui sont quand même beaucoup plus, il y en a un peu moins, mais ils sont beaucoup plus mortels que le sein ou le côlon.
Et également, après octobre, ça sera les hommes qui seront à l'honneur avec le challenge des gentlemen et puis le dépistage du cancer, donc de la prostate. Hein.
Voilà, tout à fait. On a même le mois sans tabac. Ne pas oublier au mois de novembre, parce que c'est important.
Et vous avez d'abord une tabacologue dans votre...
Et on a, voilà, une tabacologue qui fait un énorme travail au niveau scolaire, au niveau des entreprises, voilà, au niveau de l'hôpital aussi. Donc, c'est très important. Et là, elle va se déployer tout le mois d'octobre et novembre pour le mois sans tabac. Et elle fait des consultations pendant toute l'année pour nous, des privés ou dans des entreprises.
Voilà. Donc c'est une présidente qui va avoir un emploi du temps chargé, parce que il y a les manifestations au mois d'octobre.
Oui.
Donc il faut être partenaire et être présent avec des stands. Et puis après, il y aura la remise des chèques à droite et à gauche. Et donc là, il y a une deuxième couche, donc qui est plutôt agréable, celle-là. Mais il faut y être, hein, voilà.
Il faut y être.
Et bien sûr, tous les organisateurs sont très fiers de faire ce chèque à la Ligue contre le cancer. Oui. Et donc, un grand merci à tous les bénévoles, donc, qui vont se mobiliser pour ce mois d'octobre. Bien sûr, vous êtes toujours à la recherche de gens. Hein.
Tout à fait, j'allais le dire. Hein. N'hésitez pas à venir nous retrouver, à pousser la porte de notre local. Alors, j'en profite peut-être pour dire que nous allons bientôt déménager. On sera un peu plus central encore à Tarbes, 27 rue de Gonesse. Alors, ça se fera après Octobre Rose, parce que l'activité est trop importante à ce moment-là. Mais dans courant novembre, on vous avertira de notre déménagement et on pourra vous accueillir beaucoup mieux qu'on peut le faire actuellement.
Dans le local où vous êtes, à la rue Georges Lassalle.
Voilà.
Un grand merci. Et puis, on peut aussi profiter, si les gens sont intéressés, pour venir vous rejoindre. Mais dans les stands et dans les différents stands qu'il va y avoir au mois d'octobre, voilà, vous aurez toujours un accueil chaleureux, le sourire. et venez aussi chercher des informations. Venez également soutenir la Ligue. Vous l'avez compris, hein, tout ne part pas à Paris, tout ne part pas à la recherche. Localement, voilà, vous faites des choses pour les malades du département, les familles, les aidants. Voilà, vous êtes là pour les soutenir, leur donner de l'information aussi et quelque part un peu d'espoir
de la
aussi.
Prévention, et de la prévention. Nous, on fait surtout de la prévention dans toutes les actions qu'on fait avec la CPAM notamment.
Un grand merci, Annette Cuc, d'être venue jusqu'à notre
plaisir,
micro pour nous parler donc des manifestations. Et puis, rendez-vous sur le site de la Ligue contre le cancer, www.liguecancer65.fr, pour avoir tous les renseignements, pour savoir s'il y a une manifestation donc, qui va se dérouler près de chez vous. Et n'hésitez pas à y participer. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Présence à la Capelle Marival, 97.7.
C'est mon histoire.
Présence à Aurignac, 94.1.
Le jumelage entre Pavie et Villanueva de Gallego en Aragon existe depuis 2001. Dimanche 28 septembre, les deux villes ont fêté leurs 25 ans d'amitié avec une nouvelle charte consolidant leur attente. Le comité organise chaque année deux grandes rencontres collectives, une randonnée dans les Pyrénées en juin et un voyage dans une des deux villes à l'automne. Les deux comités se rencontrent régulièrement pour des réunions de travail à Bielsa, au col du Portalette ou à Canfranc. Je vous propose d'écouter l'interview de Luis Milas, président du comité Villanueva, et de Jean-Michel Blé, le maire de Pavie. Ils sont tous les deux au micro de Pauline Cazier.
Moi je m'appelle Luis Milas, Milas en français. Je suis le président du jumelage à Villanueva de Gallego, le jumelage entre les deux villes de Pavie et Villanueva de Gallego.
Alors aujourd'hui, ce matin, c'est un moment très important parce qu'on inaugure une plaque et en l'honneur des deux villes.
Voilà, aujourd'hui, on fait nos noces d'argent, je crois qu'on dit en français. Alors ça fait 25 ans qu'existe le jumelage entre Pavie et Villanueva. C'est quelque chose d'exceptionnel et très important, bien sûr. C'est...
Et donc depuis 25 ans, beaucoup de liens d'amitié, il y a eu beaucoup de déplacements entre les deux villes.
Il y a des déplacements tous les ans. Un an, on vient ici, l'année suivante, les Paviens nous visitent. Et on fait aussi des rencontres tous les ans dans les Pyrénées. Une année Pyrénées français, une année Pyrénées espagnoles. Et après, il y a plein de liens avec la bande de musique, le foot, le judo, les chansons, pas seulement, on peut dire qu'il y a des moments institutionnels, que c'est le déplacement annuel à Pavie, à Villanueva, le déplacement annuel sur les Pyrénées, tantôt françaises comme espagnoles, et après des choses exceptionnelles qui sont à voir avec la culture.
Donc aujourd'hui, c'est vraiment un moment solennel parce qu'il y a l'inauguration de cette, d'abord la salle de spectacle de Pavie et cette plaque. Donc pour vous, c'est très important.
Bien sûr, parce que c'est pas tous les ans. 25 ans, c'est pas tous les ans. C'est comme dans les couples. Alors ça fait 25 ans qu'on a une relation d'amour, on peut dire.
Donc là, le fait qu'il y ait des élus qui viennent aujourd'hui, c'est pour marquer vraiment ce moment solennel.
Moi, je peux dire que du côté, il y a toujours des élus qui viennent, parce que le jumelage, c'est le peuple, mais c'est aussi les mairies. Parce que c'est quelque chose qui est parti de la communauté européenne pour unir les liens entre les communes. Alors, tantôt le maire, comme le président des citoyens, on peut dire que dans ce jumelage, on peut dire qu'il y a deux présidents, le maire de la ville et le représentant des associés du jumelage. Alors, c'est très important la participation des autorités de la mairie, parce qu'elles font partie du jumelage.
Donc 25 ans, et là on peut vous souhaiter encore 25 voire plus d'années pour ce jumelage.
C'est un peu l'idée, pas à pas jusqu'à l'infini.
Et j'ai une dernière question sur l'âge des adhérents. Est-ce qu'il y a toutes les générations qui font partie de ce jumelage?
Il y a toutes les générations. Comme on a pu le voir, tu vois, il y a des filles, il y a des jeunes, il y a des de 3 ans, 4 ans, 11 ans, 16 ans, et jusqu'à 90 et plus.
Donc ce qui montre le dynamisme de ce jumelage.
Ben, moi je crois que oui, hein, que le jumelage est bien vivant.
Jean-Michel Blé, vous êtes maire de Pavie, donc c'est un moment officiel avec une plaque, je crois, qui sera installée.
Oui, alors c'est un moment un petit peu exceptionnel puisque ce sont les 25 ans du jumelage de notre ville Pavie avec Villanueva de Gallego, qui est une ville d'Aragon au nord de Saragosse. Et à cette occasion, on va dénommer une allée qui mène à cette place Allée de l'Europe. Et on va baptiser cette place qui pour l'instant est une esplanade sans nom, l'esplanade d'Occitanie, voilà. Et on en profitera pour inaugurer la salle de spectacle qui n'avait pas pu l'être puisqu'elle a été livrée en 2020 au moment du Covid. Et on re-signera surtout le moment important, c'est qu'on va signer à nouveau la charte de jumelage entre les deux villes qui avait été signée en l'an 2000.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler de cette charte qui est importante, qui consolide le jumelage ?
Oui, alors le jumelage, c'est un partenariat entre l'association. Il y a une association de jumelage de chaque côté, côté espagnol, côté français. C'est un partenariat donc entre les associations et les municipalités.
Alors la dénomination de la place, comment elle a été choisie ?
Alors on a réfléchi, beaucoup réfléchi avec le conseil municipal, on a eu pas mal de discussions. Et donc l'allée de l'Europe mène à la place d'Occitanie. Voilà le schéma qui a été adopté.
Voilà, à l'instant, vous avez pu entendre Luis Milas, président du comité de Villanueva, et à l'instant, donc, Jean-Michel Blé, le maire de Pavie, qui étaient tous les deux au micro de Pauline Cazier, notre correspondante dans le Gers.
Présence dans la cité mariale, 96.
Et on aime bien ce département du Gers à Radio Présence. Pour l'heure, nous refaisons un point sur l'actualité régionale de ce mercredi 1er octobre. Et pour cela, nous retrouvons Éric Leclerc, que je resalue. Bonjour Éric.
Bonjour. Rejet de la demande de suspension du chantier de la future ligne à grande vitesse entre Toulouse et Bordeaux. Par ordonnance du 30 septembre, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête en référé suspension déposée le 25 juillet par l'association Les Amis de la Terre de Midi-Pyrénées contre l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale des aménagements ferroviaires au nord de Toulouse. Les travaux se poursuivent avec maintien de l'échéance de mise en service en 2032, informe la préfecture. Le mémorial des combattants d'Afrique du Nord de Toulouse vandalisé. Ce monument est situé parc Félix Lavitte dans le quartier de Jolimont. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui a réagi sur les réseaux sociaux, je le cite, « Ce geste est une insulte à notre mémoire collective et au sacrifice de ceux qui ont servi la France. Une plainte sera déposée. » Fin de citation. Suite à une coupure accidentelle de câbles téléphoniques dans le Gers, des perturbations ont été constatées hier sur les lignes téléphoniques fixes de la totalité des administrations du département. Plusieurs établissements hospitaliers ont été également impactés. Les équipes de l'opérateur SFR étaient mobilisées et le rétablissement à la normale était prévu hier en fin de journée. Ce jeudi, nouvelle journée de mobilisation en France. Des perturbations sont attendues dans les transports, à l'éducation nationale, dans la santé, à la poste. Des manifestations sont prévues dans plusieurs villes d'Occitanie. Visite officielle du couple royal néerlandais en Occitanie aujourd'hui. Cette visite constitue un monument clé de l'année économique franco-néerlandaise, avec pour objectif de stimuler les relations commerciales, d'attirer de nouveaux investissements mutuels et de renforcer les partenariats innovants et l'échange de croissance. À l'agenda, une séquence institutionnelle en préfecture marquée par la signature de la feuille de route pour la coopération entre les Pays-Bas et la région Occitanie. Puis le couple royal se rendra à Airbus pour poursuivre leur visite au domaine de Candie avant une réception au Capitole. Montauban mobilisé pour Octobre Rose pour la prévention et le dépistage du cancer du sein à travers des actions de sensibilisation ouvertes à toutes et tous. Au programme, une marche solidaire dimanche 12 octobre, une course des trappeurs dimanche 19 octobre, voyage au cœur du sein mercredi 22 octobre, rendez-vous est donné de 10h à 18h, esplanade des fontaines pour une expérience immersive et puis la Salurythmie accueillera la soirée caritative d'Artemis, le réseau français du sein et son antenne tarn-et-garonnaise le jeudi 23 octobre.
Merci beaucoup Éric Leclerc, et bien sûr on reviendra parce que des manifestations et des propositions pour Octobre Rose, il va y avoir bien sûr tout au long de ce mois d'octobre. Dans quelques minutes, nous allons retrouver Philippe Nouni et Diego Arrabal pour Un jour, un livre, un auteur, et puis on retrouvera l'actualité à partir de 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Très bon appétit si vous êtes à table. Prudent si vous êtes bien sûr sur la route. On retrouve un duo célèbre, Philippe Nouni, Diego Arrabal, tout de suite dans Un jour, un livre, un auteur.
Radio Présence à Auch, 89.6.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Nouni, Diego Arrabal, Philippe Subercase.
Bonjour Philippe Nouni.
Bonjour Philippe Subercase.
Et bonjour Diego Arrabal.
Bonjour Philippe, bonjour Philippe.
Bonjour Diego Arrabal.
Voilà, on a l'impression qu'on... Bonjour les Dupont.
C'est Dupont et Dupont. Avec un D et un T.
Voilà, avec un D. Nous, il y a un L et deux P. Ça n'a pas changé pour vous.
Vous savez comment on reconnaît les Dupont et Dupont. Il y en a un qui a la moustache qui tombe. De mémoire, c'est Dupont avec un D. Il y en a un qui a la moustache qui se relève. C'est Dupont avec un T.
D'accord.
Vous regarderez dans Tintin, parce que je me suis dit comment on les distingue, ouais.
D'accord. Eh bien, ah oui, j'ai jamais fait attention. Ouais. Mais vous êtes un puits de science, mon cher Philippe. Reconnaître les Dupont et Dupont, ça c'est... En même temps, on ne le sait pas, on passe à côté de sa vie.
Exactement, je trouve. C'est toujours intéressant, ces petits détails.
Cette semaine, mon cher Philippe, vous avez décidé de nous faire vous avez fait une petite sélection de livres.
Exactement, que j'ai surnommé, donc, après le quartier libre, il y a quelques semaines de ça, de Lucie Plessala, de la librairie Bleu et Or. Là, ça va être des livres et encore des livres. Le premier, dans un monde où les réseaux sociaux véhiculent parfois des infox délirantes, il est bon de se pencher sur des livres qui posent le débat et invitent à la réflexion. Pierre-André Taguieff, Les théories du complot, aux éditions Que sais-je. Voilà un livre que j'ai trouvé particulièrement intéressant, puisque nous sommes aujourd'hui dans une époque où, vous le savez, les jeunes s'informe énormément par le biais des réseaux sociaux. On sait qu'on peut y trouver le pire et le meilleur. Eh bien, le grand avantage, effectivement, de ce livre, c'est qu'il explique un peu ce qu'est une théorie du complot. Alors, la maison d'édition Que sais-je, on n'en a jamais parlé, de mémoire, on n'a jamais fait un livre donc avec les éditions Que sais-je depuis 13 ans. L'avantage, c'est qu'elle propose des livres réflexifs qui permettent de mieux appréhender le monde qui nous entoure. Et ben, dans Un jour, un livre en auteur, on se propose effectivement d'en parler. Et je vais lire la quatrième de couverture du livre « Les théories du complot ». Par théorie du complot, on désigne des explications douteuses ou fausses qui s'opposent aux thèses « officielles », entre guillemets « officielles », et mettent en scène un ou plusieurs groupes agissant en secret pour réaliser un projet de domination ou d'exploitation. Les conspirateurs fantasmés sont supposés être à l'origine de tous nos maux. Le moteur de ces raisonnements, l'insatisfaction cognitive face à des événements traumatisants. C'est de cette frustration porteuse de suspicion que dérive le discours complotiste contemporain qui met l'accent sur le doute. Mais les réponses données, factuellement fausses, constituent de nouveaux dogmes véhiculés par les réseaux sociaux. Pierre-André Taguieff fait l'hypothèse que le complotisme répond à une demande de sens et de cohérence. L'ennemi invisible et diabolique explique tous les malheurs des hommes. En cela, les récits complotistes réenchantent le monde, fût-ce pour le peupler de démons. Mais il les alimente en même temps des accusations mensongères. Comment dissiper de telles illusions? Alors je précise, Pierre-André Taguieff, il est philosophe, il est politiste et historien des idées. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Hitler, Les protocoles des sages de Sion, Mein Kampf, Le nouvel âge de la bêtise, et... l'antisémitisme. Donc, il a publié l'eugénisme aussi. Donc, c'est une personne, effectivement, qui a permis de faire évoluer tout cela. Diego Arabal, une question. Vous êtes un ancien professeur d'université qui a enseigné les sciences sociales. Pour vous, c'est quoi une théorie du complot?
Je pense que la définition qu'a donnée Pierre-André Taguieff est très bonne, parce que, effectivement, une théorie du complot, c'est une explication facile et à la limite évidente d'une situation qui, elle, est beaucoup plus complexe et qui souvent est beaucoup plus cachée. C'est-à-dire que dans la théorie du complot, c'est des personnes qui se cachent pour faire le complot, mais dans la réalité, en termes scientifiques, c'est la connaissance qui nous est cachée et qui nécessite un travail pour aller l'acquérir. Le bon sens est certainement la chose la plus éloignée d'une pensée scientifique. Le bon sens, c'est toujours travailler sur une évidence. La pensée scientifique, c'est de dépasser cette évidence pour trouver des causes beaucoup plus profondes. Et il me semble que la définition qu'en donne Pierre-André Taguieff est vraiment une très bonne définition, parce qu'elle centre bien sur le besoin d'explication et aussi le désarroi par rapport à un manque d'outils intellectuel pour répondre à ces questions. En fait, le informez-vous, qui est l'élément de base de ceux qui distribuent les théories du complotisme, cette idée de s'informer est une idée qui part d'un bon sentiment, mis à part que s'informer nécessite un travail d'élaboration et un travail d'aller chercher des choses qui ne sont pas évidentes a priori.
Alors, je vais lire juste le début de l'introduction, justement. C'est un fait écrit l'auteur Pierre-André Taguieff, j'y arrive. C'est un fait que les théories du complot ont mauvaise réputation. Elles sont en général jugées irrationnelles par les philosophes, les historiens et les spécialistes des sciences sociales qui, jusque dans les années 1990, ne les analysaient qu'occasionnellement. Elles sont rejetées dans l'empire du faux et du délire et à ce titre ont longtemps été considérées comme indignes de faire l'objet d'analyses approfondies. Elles sont aussi dénoncées comme dangereuses eu égard à leurs effets présumés dans le champ politique. Elles sont accusées d'alimenter la méfiance à l'égard des institutions et des élus, ainsi qu'à l'égard des informations scientifiques et médicales, donc par exemple d'entraver les nécessaires campagnes de vaccination, on l'a vu notamment pendant la période du Covid. Mais tous les dirigeants des régimes autoritaires libéraux recourent aux théories du complot de Vladimir Poutine et Viktor Orban à Recep Tayyip Erdogan. On accuse aussi les théories du complot de favoriser les attentats terroristes en désignant aux extrémistes des cibles diabolisées. On a pu établir qu'elles avaient joué un rôle dans les motivations des djihadistes et des suprémacistes blancs qui sont passés à l'acte. Voilà pour ce premier livre que je voulais vous présenter, les théories du complot. Vraiment, par rapport à l'actualité, lisez-le. Alors, vous savez que sur Présence, hein, on est pour la lecture. Le que sais-je, on est à 10 euros. On a parlé il y a quelques semaines de ça avec Lucie Plessala, vous savez, du prix des ouvrages. Diego Arrabal.
Oui, ce que je voulais dire, mais vous pouvez terminer votre phrase. Je voudrais dire deux mots sur les éditions.
Que sais-je, allez-y.
Alors, en fait, les éditions Que sais-je, c'est des éditions dont l'objet est de présenter une synthèse vulgarisée d'un domaine de connaissances. C'est une collection qui date de la fin de la guerre. Elle démarre en 46 ou 47. C'est une collection dans laquelle des spécialistes d'un domaine considérable ou considéré d'un certain domaine scientifique doivent présenter leur domaine ou un champ de recherche la façon la plus accessible possible en un nombre de pages relativement restreint, avec comme objectif de permettre à des personnes qui ne sont pas spécialistes du domaine de pouvoir avoir les éléments de base pour pouvoir juger de ce domaine-là. Ça, c'est l'objet de cette collection dès l'origine. Et donc, c'est une collection de synthèses écrite par des points, entre guillemets, pointures de chacun des domaines correspondants. Donc il y en a sur les probabilités, il y en a sur la physique nucléaire, il y en a sur les sciences sociales, etc. Vous avez, il y a en gros, à l'heure actuelle, je crois qu'on doit être à 2000 ou 2500 numéros.
Mmh. Et j'ai trouvé, moi, là, très intéressant. Alors j'en parle aussi parce que, bon, on parlait du prix hein, il y a quelques semaines, on est à 10 euros. On pourrait trouver des livres comme ça qui seraient à 20 ou 25 euros, qui réputeraient, hein, on parlait il y a quelques semaines de cela, donc de problèmes de pouvoir d'achat. Là, à 10 euros, ça permet effectivement de pouvoir continuer à se cultiver, mais avec un prix effectivement qui reste raisonnable effectivement pour les auditeurs et les auditrices. D'où le choix effectivement de Présence de parler de cet ouvrage. Second ouvrage, dans un pays comme le nôtre, où les animaux de compagnie partagent nos vies au point de parfois les enchanter, il est réjouissant de lire ce roman écrit dans une langue flamboyante et qui possède un titre authentiquement singulier, Son odeur après la pluie de Cédric Sapin de Four aux éditions Le Livre de Poche. Et oui, vous l'aurez compris, on parle du chien après son retour de promenade sous une pluie fine qui n'a pas senti l'odeur d'un chien dans une maison une fois qu'il a été sous la pluie. On pourrait penser que c'est une odeur qui est désagréable, et eh ben Cédric Sapin de Four, donc c'était la rentrée littéraire 2024, écrit un livre qui a priori est parti pour passer inaperçu. Il va en vendre 650 000 exemplaires. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, hein, Philippe Subercase, où c'est le 1% dont vous parliez. Hein, des... Donc, vous voyez, on est largement au-delà de 80 exemplaires. 650 000 versus 80, quoi, vous voyez. On est sur un livre qui vraiment a parlé aux gens, qui a été, comme le disait Lucie Plessala il y a quelques semaines, quand on en a parlé avec elle, donc notre libraire partenaire, porté par le bouche à oreille. Voilà. Et c'est vraiment un livre superbe, magnifique. Je vais lire la quatrième de couverture et je l'ai vraiment trouvé formidable du début jusqu'à la fin. Quatrième de couverture, donc, de Son odeur après la pluie. C'est une histoire d'amour, de vie et de mort entre un homme et son bouvier bernois, Ubac, qui, en même temps qu'il grandit, prend une place toujours plus centrale dans le quotidien du narrateur. Certaines pages, Ubac pue le chien. Les suivantes, on oublie qu'il en est un. Et l'on observe ces deux êtres s'aimant, tout simplement. Un lieu mystérieux qui, se passant de mots, nous tient en haleine. Une existence inquiète et rieuse, intense, où tout va plus vite et qu'il s'agit de retenir. Et l'inéluctable séparation dont on ne voudrait pas, mais qui lui donne toute sa substance. Reste ce fichu manque, ces griffes que l'on croit entendre sur le plancher et cette odeur malgré la pluie a jamais disparu. Nul besoin d'être converti pour partager ces 13 années d'intimité. Cette histoire est universelle. Lisez ce livre, c'est un voyage d'évasion. Il est à 8,90 €, il est en poche. C'est aussi pour ça qu'on l'a sélectionné, toujours effectivement pour ce que l'on disait tout à l'heure. Vous voyez que si on prend le livre précédent et celui-là, ça fait 18,90 €. On est en dessous d'un livre que l'on va trouver aujourd'hui à 22 ou à 25 €. Troisième livre que je voulais recommander, que j'ai trouvé absolument formidable, c'est le livre donc d'un père et son fils. C'est une histoire universelle, me direz-vous. Donc on en a eu beaucoup, des livres comme celui-là, hein, sauf que celui-ci, il y a vraiment un aspect particulier. C'est un père donc qui est divorcé avec sa femme et qui doit recueillir son fils qui a tenté de se suicider et qui ne parle pas. Ça s'appelle « Mon garçon » de Xavier Demoulins. C'est aux éditions J'ai lu. Alors, toujours pareil, hein, pourquoi on en parle ? On est en poche, 7,10 €. Vous voyez, on n'est pas sur une sélection effectivement de livres qui est relativement cher, mais qui permet, avec trois livres, de pouvoir avoir le prix donc, d'un livre aujourd'hui et tout le temps d'inciter nos auditeurs et nos auditrices à lire. C'est aussi le but de cette édition, parce que lire, c'est aussi voyager. Quoi. Voilà la quatrième de couve qu'en fait l'auteur. Et déjà, la quatrième de couve m'a convaincu quand je l'ai lu. Mon garçon. Je dois te parler de Carla, de l'année de mes 15 ans. Car avant toi, je me suis retrouvé à l'arrière de la voiture de mon père, avec cette sensation de cœur en lambeaux et cette envie folle d'en finir. Au cours de sa vie, on croit souvent mourir à cause des autres. Et un jour, on prend conscience que les autres n'ont rien à voir avec ça. Tu verras. Voilà, cette quatrième de couve, elle m'a vraiment énormément touché. C'est un livre absolument magnifique, très bien écrit, où en fait, le père effectivement raconte comment à un moment donné, il essaye de retisser un lien avec son fils en se reportant sur sa propre enfance, sur sa propre adolescence, où lui aussi, eh bien, se retrouve effectivement avec une rupture amoureuse, comme son fils, et a envie à un moment donné que tout finisse. Voilà. Et c'est un livre vraiment magnifique. Moi, ces trois livres-là que je vous présente, c'est trois livres qui m'ont énormément touché, où j'ai pris énormément de plaisir à le lire. On sait que quand on regarde l'actualité aujourd'hui, on a parfois un peu de mal, effectivement, donc à décrocher, à se dire c'est triste tout. Là, quand on lit cette histoire, elle est lumineuse. La fin est très très belle. La fin est vraiment magnifique. Je l'ai relu plusieurs fois à la fin, tellement je trouvais que les mots étaient beaux, et je me disais, mince, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres pages. Voilà. Donc lisez-le. C'est vraiment un livre absolument, absolument extraordinaire. Je vais vous lire juste le début du chapitre 5. Florence n'a pris aucun de mes appels. Passé l'affolement, j'ai bouclé ma valise et tenté de retrouver mon calme, ordonner mes pensées, essayer de refaire le puzzle. Accident, Marcus, hôpital. Elle a fini par me rappeler et m'a raconté. Le scooter, la voiture, la priorité volée au carrefour, l'impact, cette violence, la police, les pompiers, le téléphone qui sonne à 2h du matin, la peur qui crève la nuit, la descente au bloc, l'opération en urgence, la jambe en morceaux, la crainte de ne pas pouvoir la sauver, les élucubrations, l'ombre du doute affreux. Elle a marqué une pause. J'ai essayé de la percer en vain. La mère de Florence aussi m'a téléphoné. Un linge doux m'a entouré de chaleur. Certaines belles familles ne cessent pas le combat avant d'en avoir reçu l'ordre. Et même après, continuent à s'acharner sur la fin d'un amour. La grand-mère de Marcus est sortie de la guerre du mutisme pour me parler de mon fils et de sa vie en jeu. Le téléphone a sonné de nouveau. C'était moins grave qu'on l'imaginait. La jambe de Marcus était sauvée. Il remarchera normalement. Nous avons eu une chance folle. La voix de Florence chantait le soulagement d'une mère et presque la paix d'une ex-femme. J'ai même entendu son rire à la fin et sa bouche en un murmure. Salut. Oh, et puis si, je t'embrasse. Voilà. C'est un livre vraiment admirable où on voit comment des gens, effectivement, sont amenés à pouvoir se reparler. Donc, moi, vraiment, je vous recommande ces trois livres. Hein. Xavier dire... de Moulins.
Oui, Xavier de Moulins est journaliste.
Et journaliste. Voilà. Donc, il était écrivain et journaliste. Il a publié plusieurs livres, dont Le Petit Chat est mort, hein, donc disponible chez J'ai lu. Voilà, vraiment un livre bouleversant, beau. Mon garçon, Xavier de Moulins, donc publié aux éditions J'ai lu. Cédric Sapin de Four, Son odeur après la pluie, donc en livre de poche, qui là vient de sortir un livre donc qui fait partie de la rentrée littéraire 2025. En fait, ils sont partis en Italie avec sa femme, ils ont fait du parapente, merci. Ils ont fait du parapente et en fait, le parapente de sa femme, à un moment donné, a décroché. Elle s'est retrouvée au sol avec 22 vertèbres. 6 mois à maigrir et à ne plus reconnaître la femme qu'il aimait. Et surtout, sa femme qui lui dit « Je ne me souviens plus de notre rencontre et de notre première fois ». Et donc, lui écrit ce livre pour tenter de reconstruire effectivement ses faits. C'est un livre aussi superbe, effectivement, que Son odeur après la pluie. C'est vraiment un écrivain qui compte. Je pense, on verra si je me trompe, qu'il se retrouvera, à mon avis, dans les personnes qui seront sélectionnées pour les prix littéraires de novembre pour ce livre qu'il a sorti, qu'on présentera pareil hein, quand il sera sorti donc en poche. Hein, ça arrive tout le temps, vous savez, très rapidement, environ 6 mois à 9 mois après, voilà, où le livre, en fait, a une deuxième vie et donc peut être disponible pour des personnes qui, effectivement, n'ont pas forcément les moyens de l'acheter. Et le premier livre, qui est un livre réflexif, de Pierre André Taguieff, Les théories du complot aux éditions Que sais-je. Vraiment, je recommande ce livre aux auditeurs, aux auditrices. Si vous voulez décrypter un peu, eh bien, effectivement, ces théories du complot, pourquoi elles ont lieu ? Quel est le travail de recherche qui a été fait ? D'où ça vient ? Quand est-ce qu'on a eu les premières théories complotistes ? Pourquoi on les utilise ? Voilà. Et ça permet ensuite, quand on lit une information sur laquelle on a des doutes, d'avoir des clés pour mieux comprendre le réel. Et je trouve que là, l'émission que l'on fait, Un jour un livre, un auteur dans présence, on a aussi cette fonction-là, cette responsabilité-là, effectivement, d'essayer de présenter des livres qui vont permettre aux gens à la fois de rêver, de voyager, mais aussi de réfléchir.
C'est important, effectivement. Merci beaucoup, Philippe Noni. Et puis également à Diego Rabal, qui a écouté religieusement oui. Et qui est toujours là pour nous donner
sur les théories du complot, vous voyez,
sur des définitions bien exactes. Merci beaucoup à tous les deux. Puis on se retrouve la semaine prochaine, puisque je crois que vous allez refaire une sélection de trois autres.
Exactement, tout à fait.
À la semaine prochaine.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Philippe Subercase.
Il y a une route bien
une route. Tu apprends qu'est-ce que ça te coûte. Y'a une route. Y'a même un chien qui court la tête entre les mains. Y'a une route. Tu sais, y'a pendant des années des gens qui ont vécu le dos tourné sur une route abandonnée avec des marronniers sauvages qui jettent leurs fruits plein le paysage. Y'a une route comme une blessure envers l'os de ton visage. Y'a une route. Y'a une route avec des champignons qui poussent, qui font la neige et la mousse. Y'a une route qui coupe la brousse. Y'a une route emplie d'oiseaux aux yeux malades qui regardent vers l'équateur. D'où vient la fumée qui fait peur? D'où vient la fumée qui fait peur? Y'a une route. Y'a pas de tapis, y'a des fleurs comme des anémones qui attendent la pluie. Y'a une route, tous les 10 ans, y'a un marin qui jette l'encre au café du coin, qui parle de voyager plus loin. Après la route, faut prendre le train. Tu descends dans le petit matin avec ta valise à la main. Y'a tellement de bruit que t'as plus d'oreilles. Puis finalement tout est pareil. Parce qu'il y a une route. Tu l'allonges ou tu la coupes. Tu t'allonges et on passe dessus. Ou tu te lèves et on tire dessus. Mais il y a une route, c'est mieux que rien. Sous tes semelles c'est dur et ça tient.
L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur internet radioprésence.com et sur le Radio Présence à Cahors 92.5.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
N'ayez pas peur de montrer vos blessures guéries par la miséricorde, recommandation du pape Léon XIV lors de l'audience